Mes débuts en bande dessinée, c'est j'ai 20 ans, je suis un lecteur de Pilote, Harakiri, pas encore les Kodesseran, puisque ça n'existe pas, ni Metalurant, parce que ça n'est pas encore arrivé. Et je connais Druillet qui m'emmène avec un copain dessinateur chez Pilote. Je montre une bande dessinée de 2 pages à Goscinny et je me fais rabrouer sèchement, qui me dit non, ça va pas le faire. En tant que scénariste, je suis pas dessinateur. Et donc, vexé, je remballe mes gaules et je pars travailler dans l'édition avec que des fourmis, comme disait Dionnet, c'est-à-dire l'édition de mots, où il n'y a que des mots. Voilà. Littérature, etc. Je travaille pendant plusieurs années chez Jean-Claude Lattès. Et puis, un jour, Le Matin de Paris me propose de devenir critique de bande dessinée. Voilà. Et je prends une rubrique hebdomadaire dans Le Matin, qui est un journal qui est proche de sa fin à ce moment-là, mais qui est un journal assez important et influent. Et je reçois toute la production de bande dessinée, je la critique et je mets au point une sorte de système pour faire ça. Voilà. Et à partir de là, comme je suis très ami avec beaucoup de gens de la bande dessinée, de la science-fiction, puisque c'est vraiment l'époque comme ça, un soir avec un garçon qui s'appelle Stan Barrett, et qui est le directeur de la librairie Temps Futur, qui est aussi un des temples de cette époque-là. Là, on est dans les années 80 pratiquement. On décide de lancer un truc qui va s'appeler l'année de la bande dessinée. C'est là que je rencontre José-Louis Boquet, qui est à cette époque-là travaille chez Stan Barrett dans sa librairie, vendeur dans la librairie. Il a 18 ans, hein, quand même, faut le noter. Et Barrett me dit, je vais te donner quelqu'un pour t'aider, parce que c'est quand même un boulot énorme. On fait un livre d'un million de signes en 3 mois, donc voilà. Et on commence à travailler avec José-Louis Boquet. C'est une collaboration qui ne s'arrêtera jamais depuis. Enfin, on a toujours continué à se suivre, à travailler ensemble, à faire des choses, etc. Voilà. Et à partir de là, il se passe quelque chose d'assez intéressant, c'est que les humanoïdes associés, ayant vu que j'étais un critique extrêmement favorable à leur livre, font la bêtise de leur vie, c'est-à-dire que au lieu de me laisser en place au Matin de Paris et dans mon année de la bande dessinée, ils disent ah non, Fromental il est génial, il nous faut. Et ils me font venir, du coup ils perdent absolument tout leur bon papier dans le Matin de Paris. Et moi je vais bosser aux Humanos où je passe 6 ans. Et où je passe comme une deuxième adolescence, je dirais. C'est-à-dire, à ce moment-là, j'ai pas loin de 30 ans, et on est les rois de Paris. Voilà, c'est la fête, c'est une espèce d'explosion culturelle. On est copains avec Ridley Scott, machin, téléphone, enfin tout ce qui fait quelque chose à ce moment-là dans la culture est proche de nous et vient se frotter avec nous, si je puis dire. Et voilà, et évidemment, toutes ces belles aventures ayant une fin, vers le milieu des années 80, 86, Métal Hurlant à bout de souffle, n'ayant plus un sou, est racheté une dernière fois par Hachette, et Hachette le tue en un an, sans moi. Voilà, j'avais dégagé, alors que j'avais été le dernier rédacteur en chef de Métal. Voilà, ça c'est mon cursus, je dirais, dans la bande dessinée. C'est-à-dire que c'est un flirt qui dure depuis très longtemps, une histoire d'amour même, avec ce mode d'expression-là, mais qui n'est pas exclusif. C'est-à-dire que par ailleurs, j'ai œuvré dans la littérature, j'ai fait des choses intéressantes, comme par exemple traduire les premiers et importer les premiers Stephen King en France. J'ai publié aux Humanos, plus tard, le bouquin fondateur de Will Eisner, qui était un contrat avec Dieu, qui s'appelait à l'époque un bail avec Dieu, dans une collection que je dirigeais qui s'appelait Autodafé. Voilà. C'est-à-dire, j'ai fait des choses discrètement, sans faire d'effet de manche, mais en essayant toujours de travailler un peu à la pointe des domaines où j'étais.